Cet article vous est proposé par l'AFIS, Association française pour l'information scientifique. Retrouvez les références ainsi que des encadrés complémentaires, dans la version texte, sur le site afis.org. Introduction à l'épidémiologie des radiations. Étude du risque de cancer. L'épidémiologie des radiations est l'étude des conséquences de l'exposition des populations humaines aux radiations ionisantes. La conséquence principale est une augmentation du risque de cancer, et nous nous limiterons à l'étude de ce risque et plus précisément du risque de cancer solide, c'est-à-dire excluant les cancers hématologiques, leucémie, lymphome, etc. Dans toute la suite du texte, pour simplifier, on utilisera le terme « cancer » pour les cancers solides. Le risque dépend de la dose d'irradiation, dose qui se mesure en millisieverts. Une dose de moins de 10 millisieverts est considérée comme très faible. Une dose d'au moins 10 millisieverts mais inférieure à 100 millisieverts est une faible dose. Une dose d'au moins 100 millisieverts mais inférieure à 1000 millisieverts est une dose modérée. Et une dose de 1000 millisieverts ou plus est une forte dose. Pour une explication de l'unité de mesure, le millisievert ou MSV, voir l'introduction du dossier. Chacun d'entre nous est exposé à l'irradiation naturelle due au gaz radon et autres rayonnements d'origine tellurique et cosmique, accrus lors des voyages en avion, aux aliments, au tabac, aux examens diagnostiques radiologiques et à certains traitements médicaux. On estime qu'en France, l'exposition moyenne de la population est de 4,5 millisieverts par an. Mais cette exposition est très variable. Par exemple, dans un territoire à forte concentration en radon, la dose moyenne peut dépasser 10 millisieverts par an, voire pour un calculateur de dose. Les expositions annuelles se cumulent. Ainsi, une moyenne de 3 millisieverts par an donnera au bout de 40 ans une dose cumulée de 120 millisieverts.
Les enquêtes. De nombreuses enquêtes épidémiologiques ont étudié les risques de cancer en fonction de la dose supplémentaire provenant d'une source identifiée. On a ainsi étudié les survivants des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, les mineurs de fond exposés au radon, les travailleurs de l'industrie nucléaire, les patients ayant subi des scanners, etc. Nous présentons les résultats d'une sélection de ces enquêtes. Survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 1945, une bombe atomique fut larguée sur la ville d'Hiroshima, suivie 3 jours plus tard par une bombe sur Nagasaki. La population totale était d'environ 600 000 personnes et 200 000 décès à court terme ont été causés par le souffle et la chaleur de l'explosion. À partir de 1950, un suivi épidémiologique des personnes irradiées a été mis en place sous le nom de Lifespan Study, LSS. Il se poursuit encore aujourd'hui. Les études portent sur près de 87 000 survivants, pour lesquels une dose d'irradiation a pu être estimée. Cette dose varie de 0 à environ 4 000 MSV. 79% des personnes ont reçu moins de 100 MSV, 18% entre 100 MSV et 1000 MSV et 3% 1000 MSV ou plus. La dose moyenne est de 116 MSV. Le risque relatif de cancer, rapport des risques dans la population exposée et dans la population témoin, population suivie jusqu'en 2003, augmente en fonction de la dose, voire encadré ci-dessous. Si les survivants des bombardements avaient été exposés au même risque de décès par cancer que la population japonaise non exposée, 10 402 décès auraient été observés, au lieu des 10 929, 527 décès supplémentaires. Le risque a donc été augmenté de 5%, 527 sur 10 402.
Travailleurs de l'industrie nucléaire. Contrairement aux survivants des bombardements, les travailleurs de l'industrie nucléaire ont une exposition au rayonnement ionisant dû à leur travail qui est étaré dans le temps. Leur dose professionnelle cumulée est en moyenne de 18 millisèves, mais peut dépasser 1000 millisèves chez quelques travailleurs. Cette exposition est surveillée par le port d'un dosimètre dont les mesures sont archivées. Cela a permis une série d'études dans ces populations, dont la plus récente est l'étude InWorks, qui a inclus près de 310 000 travailleurs suivis en moyenne 35 ans. Elle présente une mise à jour des données sur les travailleurs de 3 pays, France, Royaume-Uni, États-Unis, qui faisaient déjà partie de l'étude antérieure sur les travailleurs de 15 pays. Un peu plus de 28 000 cancers solides ont été observés et le risque relatif de ces cancers, voire encadré ci-dessous pour la façon de le calculer, a été étudié en fonction de la dose. Les estimations du risque relatif dans les différentes classes de doses avec leur précision sont présentées dans l'encadré. La précision est meilleure pour les doses les plus faibles car davantage de travailleurs y ont été exposés. Dans l'ensemble, le risque relatif augmente avec la dose et un modèle linéaire résume les données d'une façon adéquate. Le risque augmente de 4,2% pour une dose supplémentaire de 100 millisèves.
Personnes ayant eu des scanners dans l'enfance. Plusieurs enquêtes ont suivi des populations ayant eu des scanners dans l'enfance. Une enquête réalisée dans 9 pays de l'Ouest a inclus près d'un million de personnes ayant eu au moins un scanner avant l'âge de 22 ans pour une raison médicale. L'étude du risque de tumeur cérébrale a porté sur près de 660 000 personnes étudiées en excluant période de 5 ans après leur premier scanner et suivie pendant une durée médiane de 5,6 ans. La moitié des patients avaient reçu une dose au cerveau cumulée jusqu'à 5 ans avant le diagnostic dépassant 47 millisieverts, avec un maximum de 4000 millisieverts. Un total de 165 tumeurs cérébrales malignes ont été observées, à comparer aux 99 tumeurs attendues dans cette population en l'absence de scanner. Ces 66 tumeurs en plus correspondent à 0,01% de la population exposée. Les estimations du risque relatif en fonction de la dose au cerveau avec leur intervalle de confiance à 95% sont présentées en encadré ci-après. Dans l'ensemble, le risque relatif augmente avec la dose. La droite représente le résultat du modèle linéaire. Le risque relatif est égal à 2,27 pour une dose additionnelle au cerveau de 100 millisieverts reçue plus de 5 ans avant le diagnostic de tumeur cérébrale. Pour 10 000 personnes ayant subi un seul scanner qui a délivré une dose d'environ 38 millisieverts, on attend une tumeur cérébrale maligne en plus dans une période de 5 à 15 ans après le scanner. Mais ces scanners ont certainement contribué à éviter un très grand nombre de problèmes beaucoup plus immédiats.
Exposition au radon. En France, les habitants de certaines parties du Massif central et de la Bretagne sont naturellement exposés au radon, gaz radioactif qui émane du sol et pénètre dans les bâtiments. Les doses mesurées en becquerel par mètre cube, BQ par mètre cube, sont très variables d'un bâtiment à l'autre. Le becquerel mesure le nombre de désintégrations par seconde, voire introduction du dossier. Les effets du radon ont été étudiés chez les mineurs de fond, dont les expositions sont, et surtout étaient dans le passé, particulièrement fortes, et dans les populations exposées dans leur habitation. Certaines des premières études sur les effets de l'exposition au radon dans les habitations ont étudié le lien entre la fréquence des cancers du poumon et le niveau moyen de radon dans différentes zones géographiques. Mais ces études, dites écologiques, ne pouvaient pas prendre en compte les facteurs de confusion potentiels, facteurs liés à la fois à l'exposition au radon et aux risques étudiés, notamment le tabagisme, ainsi que le fait que la concentration de radon varie considérablement d'une maison à l'autre dans une même zone géographique, selon le type de sol, les fondations, les éventuelles fissures, l'étanchéité, la ventilation, etc. La plupart des enquêtes épidémiologiques sur le radon domestique et le cancer du poumon sont des enquêtes cas témoins, dans lesquelles on a comparé les expositions au tabac et au radon de patients atteints d'un cancer du poumon et de témoins sans cancer du poumon.
La synthèse de 13 enquêtes cas témoins réalisées dans 9 pays d'Europe rapporte une augmentation du risque relatif de 16% par 100 becquerels par mètre cube d'augmentation du radon dans les logements successifs de la personne concernée. Ce type d'enquête est ici très fiable parce que l'exposition a été mesurée dans les logements au lieu de dépendre du résultat d'un questionnement des participants. L'exposition moyenne des témoins de la partie française de cette enquête était de 120 becquerels par mètre cube. Et cette moyenne peut dépasser 300 becquerels par mètre cube dans certaines communes, voire encadrée ci-après. Dans ces enquêtes, les personnes étaient aussi interrogées sur leur consommation de tabac, ce qui a permis l'étude des effets conjoints du tabac et du radon. La mortalité par cancer du poumon cumulée jusqu'à l'âge de 75 ans augmente en fonction de la dose de radon séparément chez les fumeurs de cigarettes et chez les personnes n'ayant jamais fumé. Et les effets du tabac et du radon sont multiplicatifs. La consommation de tabac multiplie le risque de cancer du poumon cumulé jusqu'à 75 ans par 24, le radon par 2,2 et l'association des deux par 53. L'effet de la dose est donc beaucoup plus important chez les fumeurs.
Conséquences de ces enquêtes pour la radioprotection.
Les résultats des études présentées ici, comme ceux des autres études du risque de cancer hors leucémie, sont compatibles avec une augmentation linéaire du risque en fonction de la dose additionnelle de radiation. Les modèles permettent d'extrapoler les résultats des enquêtes pour les appliquer à d'autres populations. Ils servent aussi à argumenter les limites réglementaires pour les expositions des travailleurs. On a ainsi pu estimer que les effets de l'accident de Tchernobyl sur la population française ont été trop faibles pour être détectables. Une étude a récemment estimé le nombre des cancers attendus dans l'avenir, qui seront les conséquences des 93 millions de scanners effectués en 2023 sur 61,5 millions de patients, dont 4,2% d'enfants, aux États-Unis. Les doses de rayonnement délivrées par les différents types de scanners aux organes cibles ont été estimées en fonction de l'âge, du sexe et du type de scanner, et les risques des différents types de cancers en fonction de la dose de rayonnement aux différents organes ont été estimés en utilisant les modèles du National Research Council's Biological Effects of Ionizing Radiation 7. Cette étude montre que compte tenu de l'utilisation actuelle et des doses d'irradiation, les scanners faits en 2023 devraient entraîner environ 103 000 cancers futurs au cours de la vie des patients exposés, dont 10 000 dus aux scanners chez les enfants et 93 000 aux scanners chez les adultes. On s'attend donc à observer 1,1 cancer, 103 000 sur 93 000, pour 1 000 scanners. Si le nombre de cancers et l'usage des scanners ainsi que les doses qu'ils délivrent restent stables aux États-Unis dans le futur, les scanners pourraient être responsables d'environ 5% des cancers diagnostiqués chaque année.
Discussion.
Les enquêtes épidémiologiques ont été très bien faites, mais les estimations de risque qu'on en tire sont contestées par certains experts, qui pensent qu'il n'est pas légitime d'extrapoler un risque aux faibles doses à partir des données observées. Il s'agit d'un malentendu, car les enquêtes épidémiologiques ne comparent pas une population exposée aux radiations à une population sans aucune exposition aux radiations, une telle population n'existant pas. Elles étudient les risques chez des personnes qui sont exposées à une dose variable, professionnelle, médicale diagnostique ou environnementale comme le radon, qui s'ajoute aux radiations habituelles. Les risques relatifs calculés sont les rapports entre le risque pour une dose additionnelle donnée et le risque sans dose additionnelle. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, aurait dit le statisticien américain George Box. Si vous n'êtes pas convaincu par les modèles, il suffit de supprimer mentalement dans les encadrés les droites qui essaient de résumer les tendances pour ne conserver que les résultats des observations, estimations ponctuelles dans les différentes classes de doses avec leur intervalle de confiance. Mais ceci empêchera toute estimation des conséquences des expositions dont les effets n'ont pas été mesurés directement. Les risques associés à l'exposition au rayonnement ionisant ont fait l'objet de très nombreux travaux, impliquant des centaines de chercheurs. Et la surveillance des conséquences des expositions médicales et des expositions professionnelles va certainement continuer. Conclusion. Le risque de cancer associé à une exposition aux radiations ionisantes dépend de la dose, et toute exposition à une dose supplémentaire augmente le risque. Cette augmentation du risque est approximativement linéaire. Une dose supplémentaire cumulée de 100 millisèves augmente le risque d'un peu moins de 5%. Cette valeur de 100 millisèves est l'équivalent d'une exposition à la radioactivité naturelle moyenne en France sur environ 20 ans. Les radiations ionisantes font peur, mais nous sommes tous exposés à une irradiation naturelle en partie inévitable. Ainsi, une grande partie de la population n'est pas prête à renoncer au voyage en avion. Et les rayonnements ionisants ne sont pas un cancérogène très efficace. Le suivi de populations d'Hiroshima et Nagasaki, qui étaient en vie en 1950, montre une augmentation du risque de cancer de 5%, ce qui n'est pas considérable, et correspond à une multiplication du risque par 1,05. Pour mémoire, l'association de la consommation associée d'au moins 4 grammes de tabac et de 30 grammes d'alcool pur par jour multiplie les risques de cancer du pharynx et du larynx par 35.